L'émission. Sur Transistor. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue dans l'émission Le Magazine qui vous fait entendre le Finistère pour de vrai, avec de vrais gens, des vous et moi, les citoyennes et les citoyens du climat, de la presqu'île de Crozon et de l'Aulne-Maritime qui viennent une fois par trimestre dans l'EM pour la version radio de leur mission de porte-parole de l'action climatique. Et vous pouvez bien sûr écouter toutes les émissions qu'on a faites sur le site internet de la radio. Aujourd'hui, on aborde un sujet délicat, comme on dit, et crucial pourtant. Il s'agit des utilisations de l'urine. Notre urine, oui. En agriculture, oui, oui. En fait, cette utilisation des déjections humaines pour fertiliser la terre a été pratiquée de tout temps par l'humanité. Et ça s'est arrêté à la moitié du XXe siècle. Mais aujourd'hui, on se demande si c'était une bonne idée d'arrêter, d'envoyer ces déchets-là dans l'eau potable. L'ADEME, l'Agence de la Transition écologique, a fait le calcul. 20%, un cinquième de l'eau potable que nous consommons s'en va dans la chasse d'eau. Déjà, on mesure un peu le problème. On va continuer à le mesurer en compagnie de Céline Marzin, qui représente aujourd'hui les citoyennes et citoyens du climat de la communauté de communes de l'Aulne-Maritime et presqu'île de Crozon. C'est un réseau citoyen ouvert, animé par l'ADEME, justement, cofinancé par la Comcom et qui mène des projets concrets. Celui dont on va vous parler aujourd'hui est aussi en lien avec la Maison des minéraux de Crozon, que nous saluons. On n'est qu'au début du projet, on espère trouver les financements, mais on va quand même parler du sujet de l'utilisation de l'urine humaine en agriculture. Bonjour Céline.
Bonjour Véronique.
Bon, alors on va commencer par ce que j'évoquais brièvement, un cinquième de l'eau potable qui part dans les toilettes, hein, voilà. Et l'eau potable, en ce moment, il y a des petits problèmes.
L'eau potable, elle a tendance à se raréfier puisque la communauté de communes de la presqu'île de Crozon, Aulne-Maritime, a communiqué assez récemment, il y a quelques jours, la semaine dernière, sur un déficit d'eau de pluie depuis octobre 2024, à l'exception du mois de janvier qui était en surplus. Depuis octobre 2024, nous sommes en sous-réserve de pluie et donc nos aquifères ne se reconstituent pas.
Oui, parce que déjà on n'en a pas beaucoup, hein, des aquifères, on n'a pas de nappe phréatique quasiment, c'est le problème de la Bretagne. Hein.
C'est le problème du Finistère en particulier, effectivement, de ne pas avoir beaucoup de nappe phréatique et d'ailleurs le département s'est attelé à la tâche. Ils viennent de racheter une carrière à Bérien pour stocker 10 millions de mètres cubes d'eau, je crois.
On est allé couvrir le sujet, on pourra le diffuser d'ailleurs prochainement.
Ah ben, très bien, voilà. Mmh. Et effectivement, ils sont en train de regarder une vingtaine d'autres de carrières pour pallier à ce problème de déficit d'aquifères sur le territoire.
Et le département qui mène aussi des campagnes, là il distribuait par exemple des kits pour faire mousser l'eau du robinet pour qu'on en consomme moins. Enfin, et puis il y a des campagnes d'affichage aussi là.
Il y a des campagnes d'affichage sur les abribus au niveau du département et de la Comcom ici qui anticipent effectivement des restrictions d'eau, d'usage de l'eau potentielle dès le mois de juillet.
Et donc ça, c'est valable pour le Finistère, malgré l'impression qu'on a. Il ne faut pas se fier à ces impressions. Hein. Ce n'est pas parce qu'on a l'impression qu'il pleut tout le temps qu'on a des réserves d'eau solides.
En effet, là, il pleut, ça pluviote ce matin, mais c'est une eau qui ne s'infiltre pas. Les végétaux en déficit d'eau, en fait, vont capter toute cette eau et il n'y aura pas d'infiltration jusqu'aux aquifères.
Et quand il y a un gros orage, comme il y a eu il y a 2 semaines, par exemple, là, c'est l'inverse. Hein. Le problème, c'est que ça va beaucoup trop vite, il y a trop d'eau d'un coup.
Effectivement, on a beaucoup moins d'arbres sur notre territoire et cette quantité phénoménale d'eau qui tombe d'un coup et sa tendance à devenir récurrent ne peut pas s'infiltrer parce que nos sols manquent d'arbres et de grands végétaux pour pouvoir aider à cette infiltration.
Et la préfecture du Finistère nous a mis le département en, je ne sais plus quel est le nom, vigilance sécheresse. Et on n'est pas encore en restriction, il n'y a pas encore de restriction d'eau. On peut encore remplir sa piscine ou arroser son jardin, mais si ça continue avec une aussi faible pluviométrie. Là, j'ai les graphiques sous les yeux, les cumuls de pluviométrie mensuelle. Bon, mais il n'y a pas photo. Hein. C'est vrai qu'en 2024, il y a eu beaucoup d'eau et on voit à chaque fois les chiffres de 2025. Effectivement, à part en décembre, c'est en décembre en l'occurrence qu'il a plu un petit peu plus que l'année précédente, mais sinon, on est en dessous. Hein.
On est en dessous. Effectivement, aujourd'hui, jusqu'à maintenant, ces dernières années, quand il y avait restriction d'usage, c'était pour arroser, pour remplir sa piscine, pour arroser son jardin. Mais si on veut vraiment aller au cœur du sujet, en fait, une étude assez récente de l'INRAE dit que parce que plus les années vont passer, plus ces périodes de sécheresse vont être récurrentes et surtout vont durer plus longtemps. Et l'INRAE dit bien qu'en fait, si on veut ralentir cette dégradation de la quantité d'eau disponible pour les humains et pour les animaux aussi, il s'agit bien d'être sobre dans tous les aspects de nos vies et tous les usages humains de l'eau.
Et alors, c'est là que intervient notamment l'urine, le pipi. C'est pas seulement pour ne pas tirer la chasse d'eau qu'on s'intéresse à l'urine, c'est parce que de fait, c'est composé d'éléments extrêmement intéressants pour l'agriculture. Qu'est-ce qu'il y a dedans ?
Alors, je voudrais juste revenir sur la chasse d'eau, parce qu'effectivement, on rappelle, c'est quand même 10 à 15 litres d'eau suivant l'équipement que vous avez. Les plus récents, il y a moins d'eau dedans quand même. On est en dessous de 10 litres, c'est plus économe, mais les plus anciens, on est toujours entre 10 et 15 litres d'eau. C'est de l'eau potable, c'est ce qu'il faut rappeler. Voilà. C'est que dans nos chasses d'eau, c'est de l'eau potable. Et on ne se rend pas forcément compte en faisant 3 gouttes de pipi, on appuie sur le bouton, parce que c'est un automatisme acquis depuis des dizaines d'années, on déverse 10 à 15 litres d'eau potable qui après partent et ne reviennent pas dans le cycle de l'eau en fait. Et il est là le sujet. Et l'urine pourrait faire partie des éléments qui pourraient être sortis de ce cycle avec de l'eau potable.
Bah, déjà, il y a 98% d'eau dans l'urine, pour commencer.
Mais et le reste est composé de minéraux assez essentiels pour nos vies, que ce soit pour nous en tant que mammifères, humains, animaux, et les plantes. C'est composé de d'urée, et aussi de phosphore, de potassium et d'autres minéraux.
De l'azote aussi.
De l'azote.
Et il se trouve que, notamment, le phosphore... est en situation planétaire assez préoccupante, même très préoccupante.
Tout à fait. Les réserves, en fait, c'est un cycle commun entre le phosphore et l'azote. Et donc, ces minéraux sont aujourd'hui les réserves accessibles sont en train de diminuer fortement. Le couple phosphore-azote serait la 9e limite planétaire qui aurait été atteinte. On parle du pic. Du pic de l'azote, du pic du phosphore, comme on a pu parler du pic du pétrole. Et donc, on atteint un moment critique où, effectivement, l'idée serait aussi d'être un peu plus sobre dans l'usage du phosphore qui vient de roches minérales phosphatées.
Mmh. Oui, il est extrait. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'en fait, comme on n'utilise pas le phosphore de notre urine pour l'instant en agriculture, on va le chercher parce qu'en fait, c'est très important pour les plantes. Hein, c'est ça. Hein,
c'est extrêmement important dans le processus cultural des plantes. Notamment au niveau protéinique pour l'azote et effectivement en fait ce phosphore, il n'y a pas beaucoup de gisements sur la planète. Aujourd'hui les 4 pays producteurs majeurs sont la Chine, anciennement les États-Unis aussi, et plus près de nous le Maroc et la Syrie. Et pour la France, majoritairement ça vient du Maroc.
Donc c'est un phosphore qu'on va extraire et qu'on va transformer pour qu'il soit disponible, enfin pour qu'il soit en plus capté par les plantes, parce que tel quel, il n'est pas capté par les plantes. Hein.
Non, il n'est pas capté par les plantes et on utilise aussi du gaz pour faire ces engrais. Majoritairement, ce gaz, il vient de Russie aujourd'hui pour la France.
Bizarre.
Bref.
Engrais phosphatés, on dit.
Voilà. Et effectivement, c'est une extraction minière qui est extrêmement polluante, défavorable à notre environnement de vie, parce qu'en fait, en extrayant ces minéraux, c'est aussi nos environnements de vie qu'on dégrade à nous tous sur la planète.
Il y a un coproduit, en fait, c'est ça ?
Et il y a un coproduit actuellement qui fait l'objet de l'actualité, mais je me suis renseignée, j'ai vu que déjà en 2017, ça faisait l'objet d'actualité, qui est le cadmium.
On en a beaucoup parlé ces derniers temps.
On en a beaucoup parlé parce qu'effectivement, c'est un minéral qui se comporte comme le zinc et qui a tendance à s'accumuler. C'est-à-dire que même des micro-quantités, le fait que ça s'accumule et que ce soit chronique, s'accumulent dans le corps, notamment des femmes et des enfants, et c'est cancérigène, c'est avéré cancérigène, c'est pas potentiellement cancérigène, c'est avéré cancérigène, et ça devient un vrai sujet, c'est cancérigène, et ça crée aussi des maladies cardiaques, rénales.
Et ce cadmium, il est présent dans le phosphore qu'on extrait, c'est ça ? Enfin,
ce cadmium est présent dans les roches phosphatées extraites notamment au Maroc. Et,
il n'est pas enlevé.
Et il n'est pas enlevé et il figure dans les engrais. Ce qui se passe en fait, c'est pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on en a beaucoup, beaucoup ? C'est que quand des engrais sont créés par des entreprises de biochimie, elle n'avait jusque-là l'obligation, de par les obligations européennes légales, de ne fournir des analyses et des impacts environnementaux que de la molécule active.
Phosphore
en l'occurrence, et pas des impuretés. Le cadmium est considéré comme une impureté dans la formulation de ces produits. Et donc c'est pour ça que ça passait comme une lettre à la poste sans être vu et affiché.
Donc il était répandu partout.
Il est répandu partout dans nos corps et aussi dans nos sols en fait, dans nos sols, dans nos eaux. Et il vient d'y avoir une décision du tribunal au niveau européen qui vient de dire qu'effectivement, à partir d'aujourd'hui, les entreprises de biochimie auront l'obligation de faire analyser les impacts aussi des impuretés comme le cadmium.
Parce qu'il n'y a pas besoin d'en avoir beaucoup pour qu'il fasse déjà des dégâts. Donc c'est pas une question de...
En fait c'est l'accumulation, c'est-à-dire que tous les jours on mange du pain parce qu'effectivement il disait que là où il y en avait le plus c'était le pain, c'est des produits du quotidien alimentaire et c'est l'accumulation qui fait le problème.
Donc l'urine contient elle un phosphore qui est tout à fait disponible pour les plantes immédiatement, c'est ça enfin,
Oui absolument, notre urine en fait est un produit assez merveilleux, il y a un jardinier il y a une dizaine d'années qui avait écrit un livre, un jardinier belge, Renaud Delousse qui avait écrit un livre qui s'appelait l'urine de l'or au jardin et il avait tout à fait raison dès la fin du 19e siècle début du 20e siècle quand on a commencé à généraliser l'assainissement collectif avec un vecteur de transport, les égouts qui étaient l'eau, certaines personnes s'étaient déjà alarmées du fait qu'on jetait à la poubelle sans le recycler et le récupérer le phosphore qui était une matière minérale très peu abondante sur la planète.
Ouais, et
précieux. Et on en a un usage absolument phénoménal en agriculture. Aujourd'hui, on le sait, les rendements baissent.
Les rendements agricoles baissent,
notamment il y a l'Association Générale des Producteurs de Blé, l'AGPB, récemment le 30 mai qui a fait un article dans le Telegram pour expliquer qu'en 2024 les rendements se sont effondrés avec une chute de 27% des volumes, ce qui représente la pire récolte de blé en 40 ans. Et en soulignant qu'en fait le coût des engrais phosphatés représentait environ 30% du coût de production.
Un tiers, c'est énorme.
Un tiers, c'est juste énorme. Et en fait si on met en place un cercle vertueux alimentation, urine et agriculture, d'arriver à faire ce cycle-là, localement, on serait moins dépendant des gaz russes, avec qui on n'est pas
déjà
super en bon terme. On importerait moins de cadmium qui rend malade à peu près tout le monde. Et on créerait une nouvelle activité et une filière économique.
Et on éviterait de polluer l'eau, accessoirement.
Et on éviterait de polluer l'eau et on la préserverait. Parce que le problème aujourd'hui qu'on a aussi, c'est cette quantité d'eau phénoménale, d'eau noire, pose problème quand effectivement il y a des orages et qu'il y a trop d'eau et que nos systèmes d'assainissement n'arrivent pas à réguler. Et donc ça fait des pollutions et nos plages sont fermées.
Par exemple. Et oui, et donc en plus, historiquement, on ne va pas trop s'attarder sur l'histoire, mais les déjections humaines ont été utilisées dans l'agriculture tout le temps. Enfin, ça avait même un nom, ça s'appelait l'engrais flamand dans certaines régions, le nord, voilà.
Tout à fait, et à Paris, on ne va pas très loin, le ventre de Paris pouvait être alimenté parce que les chevaux qui servaient à transporter les légumes et autres denrées, leur déjection était utilisée aussi. Et à Paris, on avait aussi des transports de matières humaines avant le début de l'assainissement.
Et ben oui, dans l'autre sens, quoi. On amenait les légumes, on sortait de la ville la matière humaine.
C'était un cercle vertueux. C'est quand on a voulu emmener nos déjections très très loin et hors de notre vue que les soucis ont commencé à arriver et que le cercle vertueux s'est arrêté.
Et oui. Or, il y a quand même des collectivités qui ont conscience du problème et qui se mettent à récupérer à nouveau l'urine. On s'arrête à l'urine, pour l'instant, on va en reparler un petit peu plus loin dans l'émission.
Oui, Oui, parce que l'urine est un... Si l'urine n'est pas mise dans de l'eau, c'est-à-dire l'urine pure, c'est un milieu stérile. Donc ça, c'est un avantage. Une fois qu'on y met de l'eau et d'autres bactéries pathologiques comme nos selles, ça devient compliqué. Donc effectivement, avoir des toilettes à séparation qui permettent de collecter l'urine sont des choses qui sont en train d'être envisagées. À Paris, en 2019, il y a un quartier là, qui est en train de sortir de terre, un écoquartier de 10 000 m² d'habitation. Qui le temps que donc c'était l'ancienne maternité du 14e arrondissement avec tout un tas de bâtiments et dans le cahier des charges en 2019 la mairie de Paris avait mis la collecte des urines.
D'accord. Et voilà. Donc ça a été fait.
Et oui, les réseaux ont été posés. Il y a eu du retard dans la construction des bâtiments parce que le promoteur principal s'est désisté, donc ils ont perdu quelques années dans la construction, mais c'est en cours. Autrement, il y a dans d'autres régions, l'agglomération d'Angers s'est intéressée au sujet.
Et dont le maire d'ailleurs est un ancien ministre de l'environnement.
De la transition écologique, voilà. Tout à fait. Mmh. À Angers, il y a un projet avec des maraîchers où les gens qui viennent récupérer des légumes amènent leur bidon de pipi.
En échange.
Voilà, en échange.
Ah non, c'est pas en échange, c'est un don.
C'est un don. Mmh. Voilà, on sait que à Poitiers, ce grand parc d'attractions, le Futuroscope, depuis au moins 4 ou 5 ans maintenant, récolte les urines des touristes qui viennent visiter le parc.
Et les donne à des agriculteurs ?
Et ça, c'est une entreprise privée dont on ne sait pas exactement. Par contre, l'agglomération de Lyon, à Lyon, là, il y a un grand projet. Donc, depuis 2022, une année où il y a eu une grande sécheresse en France, l'agglomération de Lyon a mis à son agenda la collecte des urines et l'expérimentation sur de l'épandage avec des agriculteurs. Ils ont mis un budget de 720 000 euros sur ce projet-là. Ils ont épandu 10 mètres cubes d'urine dans des champs.
Alors, c'est en agriculture conventionnelle. D'ailleurs, paradoxalement, l'agriculture biologique n'a pas le droit de faire ce type d'épandage, alors que l'agriculture conventionnelle, oui.
Oui, c'est la petite bizarrerie. Alors peut-être parce que dans nos urines, il y a aussi des médicaments, il y a tout un tas de produits qui ne sont pas forcément désirables. Donc pour l'instant, l'ANSES et le ministère de l'Agriculture ont décidé de ne pas autoriser l'urine dans l'agriculture biologique, alors que parfois, en agriculture biologique, sont autorisés des produits qu'on n'a pas forcément envie de voir dans notre alimentation, mais... Voilà. Et donc l'agglomération de Lyon essaye de développer ce système-là à grande échelle. On a aussi sur le plateau de Saclay en région parisienne des universités qui récupèrent les urines aujourd'hui.
Mais il y a d'ailleurs aussi de la recherche qui est menée.
Il y a de la recherche. Il y a une association, un ancien ingénieur des Ponts et Chaussées qui, depuis 10 ans, c'était son projet de fin d'études, a décidé de s'attaquer au sujet des excréments et de l'alimentation. Son projet, c'était alimentation et excréments et faire un cercle vertueux. Je ne sais pas si sa motivation était la sobriété de l'eau à l'époque, mais en tout cas, c'était l'agriculture et le fait de pouvoir avoir des engrais locaux.
Voilà.
Et pouvoir recycler le phosphore qui est vraiment un minéral très rare.
Critique.
En situation critique.
En tout cas, dans sa forme absorbable immédiatement par les plantes. Hein.
Tout à fait. Et sachant que la quantité d'urine qu'on a, un humain, en moyenne, c'est 1 litre d'urine par jour. Ouais. Elle est disponible, elle est là à côté. Et vraiment, créer des filières, c'est une filière économique. En économie circulaire qui pourrait se créer.
Et si on sort de France, il y a des pays en Europe qui commencent à collecter aussi l'urine, je crois, en Scandinavie, il me semble, ou les Pays-Bas. Donc voilà, c'est pas complètement fantaisiste, on n'est pas en pleine science-fiction, mais on sait qu'il y a des freins, il va falloir quand même les aborder. Alors, les médicaments, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette question-là, justement, des médicaments ? C'est vrai, il y a des médicaments dans l'urine, mais en même temps, il y en a partout, non ?
Il y en a partout. La viande que l'on mange, elle est traitée avec des antibiotiques, on se soigne et nos eaux sont pleines aussi, en dehors des pollutions de minérales, elles sont aussi pleines de médicaments.
Les lisiers de porc, on ne se pose pas la question, ils sont répandus tels quels alors qu'ils sont pleins d'antibiotiques. Enfin, les lisiers de porc ou les autres excréments d'animaux, c'est ça.
Oui.
Hein. Donc, cette question des médicaments, c'est une fausse question puisque de toute façon, ils sont partout. Et puis ils vont dans l'eau. Et dans l'eau, ils sont pas. On les enlève pas. Hein, les médicaments qui sont dans les stations d'épuration.
Les stations d'épuration, si elles essayent un maximum de traiter, mais c'est quand même très compliqué.
Ça coûte cher aussi, le traitement de l'eau, de plus en plus cher.
Oui.
Autre, évidemment, problème, les pollutions bactériologiques. Quand on utilise l'urine, pour l'instant, on la stocke un peu pour
oui, elle est stockée. Tout le monde n'est pas d'accord sur le sujet, mais entre quelques semaines et 6 mois, effectivement, parce que si vous mettez l'urine directement sur les plantes, ça brûle. Donc il faut temporiser et elle est stockée quelques temps avant d'être épandue. Surtout, elle est diluée fortement. Donc entre 5 et 10% d'urine pour après 90% d'eau.
Et il y a évidemment la barrière psychologique.
Tout à fait, effectivement, le fait de... Pourquoi est-ce qu'on a créé des assainissements collectifs il y a des années de ça? C'est qu'effectivement, on n'a pas trop envie de voir nos déchets, comme nos déchets plastiques d'ailleurs que l'on cache. Et du coup, on ne se rend pas compte de la quantité de plastique qu'on répand dans la nature.
Et qu'on absorbe aussi.
En fait, on devrait bannir le mot déchet de nos vies.
Mais oui, c'est ça.
C'est parce que rien ne devrait être un déchet.
Tout est
une ressource potentielle et ça devrait l'être à partir de maintenant. Et effectivement, nos urines ont été considérées comme des déchets, donc il ne faut pas voir, il ne faut pas... Et en fait, cette image-là, nous, les citoyens du climat, on aimerait bien, en même temps qu'on va faire une expérimentation avec des agriculteurs, un maraîcher et un céréalier ici en Presqu'île dans les mois à venir, on souhaiterait aussi sensibiliser sur l'urine et ne plus la considérer comme un ennemi. Parce que je rappelle, quand elle est 100% pure, c'est un milieu stérile. Et donc, notre projet s'appelle « Le pipi, c'est cool ».
Et d'ailleurs, juste une parenthèse, il y a aussi la question de l'odeur. Comment est-ce qu'on gère ça?
Alors, l'odeur, effectivement, il y a cet ammoniac. Et en fait, elle est là juste quand le pipi sort de notre corps. Et effectivement, si on laisse après
à l'air,
cet ammoniac s'en va.
D'accord, oui, donc ça reste pas longtemps, cette odeur. Si vous utilisez l'urine dans votre jardin, vous avez pu le constater souvent. Donc, le projet des citoyennes et citoyens du climat, en partenariat avec la Maison des Minéraux, si tout va bien, si on trouve les financements, en quoi est-ce qu'il va consister, ce projet?
Donc, il est sur deux plans. Donc, comme je le disais, il y a une partie expérimentation avec des agriculteurs et avec des fast tests. Il y a deux volontaires, un en maraîchage et un en céréales. Et l'idée, c'est de faire des tests avec une parcelle qui soit sans engrais chimique, aucune, sans urine, une autre parcelle avec l'engrais habituel qu'utilise l'agriculteur, qui n'est pas de l'urine, et un autre avec l'urine, et de voir si les rendements pour l'agriculteur seraient identiques.
Ouais. Donc des parcelles comparables, une culture... comparable, donc des céréales, c'est quoi, du blé, ça serait plus...
Alors, avec le céréalier, on va faire un blé d'hiver, là, cet automne, et avec le maraîcher, en discutant avec lui, il disait qu'effectivement, là où ça pourrait être probant et vraiment visible, on va le faire sur 3 légumes d'été, là, la salade, les épinards et les radis.
Et donc ça, cette opération, alors c'est pas une expérience scientifique dans des conditions protocolaires, etc. Mais enfin, c'est quand même quelque chose qui sera avec cahier des charges, c'est ça?
Absolument, on va établir un cahier des charges en commun avec les agriculteurs et ce sera tout à fait valable parce que les agriculteurs sont experts dans leur domaine. Donc ils sont à même de dire quels sont leurs rendements aujourd'hui. Les agriculteurs avec qui j'ai discuté me disaient aujourd'hui mes rendements c'est ça, ça et ça, et donc si on fait ça on pourra tout à fait regarder si les rendements baissent ou augmentent ou sont équivalents.
Et si c'est concluant, ça servira vraiment aussi de support de communication à cette opération?
Ça servira de support de communication et c'est aussi de se dire voilà, si des agriculteurs acceptent de faire ça, peut-être que d'autres le feront aussi.
Oui.
Et en lien avec aujourd'hui la baisse des rendements et le coût qui va certainement continuer d'augmenter étant donné la situation géopolitique internationale, les coûts de ces intrants vont certainement continuer d'augmenter et seront peut-être moins accessibles s'il y a des détroits qui sont fermés ou certains pays qui décident...
Des aléas géopolitiques, comme
exactement,
on dit.
Exactement. Ouais. Et puis c'est aussi créer une économie locale.
Mais oui, c'est ça. Là, c'est du local.
C'est du local et à l'année.
Et ouais, en plus. Et gratuit. Enfin, gratuit, non. Il faut mettre en place le transport, tout ça. Alors justement...
C'est une économie à créer.
Mais bien sûr. Et les citoyennes et citoyens du climat ont dans leur carton... Enfin, ont déjà parmi les adhérents de les membres, en tout cas, des ingénieurs qui sont volontaires pour créer une pipi mobile.
Tout à fait. Nous allons créer une pipi mobile parce qu'aujourd'hui, on n'a pas parlé, mais il y a des festivals en fait qui récupèrent l'urine le depuis des monde, années, ouais. notamment le Bout du Monde et les Transmusicales Arènes depuis pas mal d'années aussi. Et l'idée, c'est effectivement aussi de faire participer les habitants de la Presqu'île pour récolter l'urine et pour sensibiliser à ce matériau précieux. Et qu'on puisse tous voilà, participer à ce projet.
Et un test aussi de séchage de l'urine, enfin, ça paraît étonnant.
Alors
mais
on en a parlé effectivement, mais si vous laissez de l'urine au soleil sur un matériau dur, en fait vous avez quelque chose, une espèce de minéral blanc.
Comme
dans les marais salants, exactement. Et donc, c'est l'urée pure solide. On se pose la question de... Mais après, c'est un projet à long terme.
Oui,
c'est un projet sur trois ans, au moins trois ans sur, qu'on fait là et qu'on démarre. En termes de transport, effectivement, l'urine, tu le disais, c'est 90% d'eau, voire plus.
C'est lourd.
C'est lourd à transporter. Mmh. Et donc, une des options qu'on envisageait, c'était effectivement de trouver un moyen de sécher l'urine
et bien
pour avoir l'urée pure.
Eh bien, très bien. De toute façon, on reviendra sur ce passionnant sujet. Enfin, moi, je le trouve passionnant. J'espère
moi
que
aussi.
Tout le monde le trouve passionnant. On retrouvera sans doute le réseau des citoyens du climat de la Presqu'île de Crozon et de l'Aulne-Maritime la saison prochaine, en tout cas, on l'espère. Merci beaucoup, Céline.
Merci, Véro.
Dans un instant, la suite et la fin de l'EM avec d'autres invités qui vont nous proposer une folle